Et bonsoir.
Bonsoir. Il est 19h passé de 2 minutes et c'est l'heure des Canu Info.
Et ce soir, on parlera de manifs. On va commencer par ça. Il y en a eu un petit peu partout aujourd'hui en France. Le mouvement n'est pas terminé.
Ensuite, on parlera de des préfectures qui prennent de plus en plus leurs aises pour changer les trajets des manifs, quoi.
Et puis dans la foulée, on écoutera un petit reportage qui fait plaisir. On vous laissera le découvrir.
Et on finira par la ville de Lyon qui veut faire place nette, place Dupont. Et ensuite, on aura fini ce Canu Info. Vous le devinez à l'énonciation des titres, hein, ça risque d'être un petit Canu Info. Voilà.
Ouais.
Et ben, on va commencer avec des manifs. Vas-y.
Canu Info. Du mercredi.
À Lyon, 7000 personnes ont manifesté cet après-midi. Après le parcours classique, la manifestation a dû bifurquer pour ne pas prendre la rue de la Barre, interdite par la préfecture. On y reviendra tout à l'heure. Pareil que les commerces et les bistrots de luxe installés dans l'ancien Hôtel Dieu en ont marre de la décoration qu'il aurait faite à chaque fois. Et on imagine que c'est le genre d'endroit où les directeurs ou les propriétaires peuvent passer un petit coup de fil au préfet vite fait et puis demander à 7000 personnes de prendre un autre chemin. La manif, en tout cas, s'est achevée dans un calme, ma foi, relatif aux alentours de 16h30. À Marseille, c'est la grève du ramassage des ordures qui commence à changer l'aspect de la ville. Malgré le déblocage des dépôts par les flics, malgré le recours à des entreprises privées, les heures sup pour les non-grévistes, on voit sur les trottoirs les tas de poubelles qui grossissent. C'est dans cette ambiance qu'ont défilé aujourd'hui un certain nombre de personnes, c'est-à-dire que les flics en ont compté 4500, que la CGT en a compté 75 000. Donc on a bien compris, hein, si jamais il y en a qui n'ont pas de calculatrice dans la tête, le chiffre des flics n'est pas la moitié de celui de la CGT, c'est pas le tiers, c'est pas le quart, c'est même pas le dixième, c'est un 16e. Marseille, conforme à la légende. En Ile-de-France aussi, il y a des histoires de poubelles. Dis donc, les trois incinérateurs de la région Ile-de-France sont à l'arrêt. Les trois incinérateurs, pas trois désincinérateurs, mais tous les incinérateurs. Donc sont à l'arrêt parce que c'est la grève depuis quelques jours déjà et au moins jusqu'à lundi prochain. Et comme ces trois incinérateurs sont gérés par trois entreprises différentes, c'est la première fois depuis qu'ils existent qu'ils sont arrêtés tous les trois ensemble.
Ah oui.
6000 tonnes de déchets pour l'instant qui ne peuvent pas être brûlés. Et puis ça va s'accumuler d'ici lundi. C'est possible que là aussi ça commence bientôt à se voir à l'aspect de la ville. À Paris, une responsable lumière de l'opéra raconte à un journaliste du Monde pendant la manif que les spectacles à l'opéra ont été interrompus pendant un mois à cause de la grève. Et puis après, les gens ont repris, comme ailleurs, ils reprennent plus ou moins. Au bout d'un moment, il faut quand même faire rentrer de la thune dans le porte-monnaie. Du coup, il y a des gens qui reprennent le boulot. C'est ce qui s'est passé à l'opéra. Mais malgré tout, avant chaque représentation, les grévistes lisent un texte sur scène pour rappeler qu'ils restent mobilisés. Ils et elles restent mobilisés.
Et alors, je ne sais pas si à Paris ça s'est passé de la même manière qu'à Lyon, mais en tout cas à Lyon ça s'est eu fait. Il y a eu des représentations qui ont été annulées parce que du coup le personnel était en grève et du coup ne pouvait pas assurer le service de l'opéra. Et comme le public de l'opéra est un public, on peut dire majoritairement de droite, les réactions sont plutôt
alors,
pas forcément.
Écoute, je sais pas exactement ce qui s'est passé à Lyon. Si t'as des infos plus précises.
Je sais qu'ils se sont fait huer, tout ça, ça dépendait un peu.
Mais c'est ça, c'est aussi ce que raconte cette responsable lumière, qui est par ailleurs une responsable syndicale, qui explique qu'il y a eu des sifflets et des mots très durs. Une partie du public applaudit, mais l'autre hurle. C'est évidemment cela qu'on entend le plus. Il crie, la grève, ça devrait être interdit, vous devriez aller à la mine. Et là, on imagine comment ces bourgeois anti-grève qui vont à l'opéra à Paris ou à Lyon, on imagine la connaissance qu'ils ont de la mine et le fait que quand ils disent ça, c'est pour dire vous devriez nous rejoindre à la mine, certainement. Certainement que pour tous ces gens-là, cette soirée à l'opéra était peut-être, leur a été gâchée par des grévistes alors que c'était peut-être leur dernière soirée avant de mourir de la silicose.
Mais il y a peu de chances quand même.
Il y a peu de chances. Bon voilà, encore quelques chiffres de manif. Toulouse, 35 000 personnes. Le Havre, 7 000. Rennes, 4 000. Bordeaux, 10 000. Saint-Étienne, 4 000. Strasbourg, 1200. Le mouvement n'est pas du tout aussi mourant qu'on le dit. Et puis surtout, il se diversifie. C'est-à-dire que les manifs sont de moins en moins le seul mode d'action, voire sont de moins en moins le mode d'action principal.
Et ça a l'air de rien, mais ça ne sent pas très bon. Depuis que les préfets peuvent prononcer aussi facilement qu'une obligation de quitter le territoire un périmètre d'interdiction de manifester, ils ont un peu tendance à se lâcher. Alors voilà, donc c'était ces histoires de périmètre là, c'est apparu aller depuis les gilets jaunes, je crois, hein, en gros.
Et je pense que c'est la fameuse loi pour la liberté de manifester.
Ah oui, c'est
celle
ça.
Qui s'appelait comme ça avec ce petit truc très qui nous rappelle complètement dans le livre 1984 ces grands slogans de l'État ultra totalitaire qui sont la guerre c'est la paix, le savoir c'est l'ignorance, et je me rappelle plus lequel est le troisième, mais et là c'est la loi pour la liberté de manifester, qui est une loi qui évidemment était là pour restreindre la possibilité de manifester.
C'est ça, donc en gros hein, maintenant si jamais vous avez hiberné depuis quelques temps, c'est ça, les préfets balancent de l'interdiction du périmètre où c'est pas possible de manifester, ou tout contrevenant risque une amende, ou de se faire fouiller, ou de voilà. En gros, maintenant, c'est devenu le lot courant. Hein. Si on va à une manifestation, il y a régulièrement des barrages filtrants qui contrôlent, sacs, fouillent au corps les gens pour voir ce qu'ils ont dans leur sac, confisque le matériel par exemple pour se protéger des gaz lacrymogènes qui sont quasiment tirés à chaque manifestation maintenant. Donc voilà. Alors bon, bien heureusement tout ça ne sert pas à grand chose. Enfin, en tout cas, ça, par exemple, ça empêche pas du tout que ces contrôles-là, par exemple, ça empêche pas du tout qu'après, au bout d'un moment, il naisse un espèce de cortège de tête, hein, comme on l'appelle maintenant, qui soit lunettes de plongée, foulard sur la tête, avec, de quoi se protéger des gaz. Donc voilà, on est là dans du contrôle. D'un point de vue purement légaliste, l'interdiction depuis deux manifestations du passage par la traditionnelle rue de la Barre pour arriver sur Bellecour acte ou insiste un peu sur un basculement qui voudrait qu'on passe du droit de manifester à une demande en gros, et que ce droit à manifester en gros il passe après un espèce d'intérêt sécuritaire. Voilà, pour quelques taches d'huile de vidange bien mérité hein, sur cet hôtel lieu devenu cible et symbole de l'hôpital public et qui est lui-même devenu un temple faste un peu de la surconsommation. Bref, c'est un peu voilà, c'est un peu comme si le capitaliste sur un parcours de manif avait dit ah regardez, on va vous montrer à peu près ce qu'on peut faire de pire, c'est-à-dire transformer un hôpital public avec un planning familial à l'intérieur en un espèce de magasin de luxe avec enfin des espèces de centre commercial avec voilà, bref.
Et c'est ça de luxe hein, c'est des restos pour dans lesquels vous et moi on a peu de chance d'aller souvent manger,
c'est ça,
et des boutiques pareilles où on a peu de chance d'aller souvent faire nos emplettes.
Dedans il y a le centre de la gastronomie lyonnaise, enfin bref tout plein de trucs où, bref. Et ben voilà, le préfet choisit de barrer la route et de dévier la manif. Alors ça a l'air de rien, mais quand même ça vaut le coup de se rappeler qu'avant c'était pas du tout dans des logiques de l'État. Il y a pourtant eu le mouvement contre le CPE, les retraites le mouvement des retraites de 2010, le mouvement contre la loi travail. Tous ces mouvements ont été plutôt déterminés avec par exemple des pillages de magasins ou en tout cas des casses de vitrines, et en tout cas pour le CPE ou les retraites de 2010, je me souviens plus très bien, mais le magasin Micromania qui est rue de la Barre, et très exactement, s'est retrouvé, sa vitrine fracassée, le magasin pillé. Et là, aucune interdiction n'était prononcée. Les flics étaient là, certes, en nombre, prêts à attaquer les manifestants sans trop de retenue, mais il n'y avait pas cette interdiction. Alors ça fait un petit changement où on a un peu quand même l'impression qu'on passe d'un truc qui est genre, en gros, avant on déposait un parcours de manifestation et la plupart du temps il était accepté et la préfecture n'avait pas grand chose à dire, sauf si je sais pas moi par exemple exemple, il y avait une autre manifestation qui se croisait, que ça risquait d'être compliqué, les deux manifestations. Là, ils disaient non, quand même, risque de trouble à l'ordre public, blablabla. Déjà, rien qu'avec ça, ils abusaient largement de cette histoire de trouble à l'ordre public. C'était un peu c'était Sarkozy qui avait introduit ça. Et c'était le premier truc un peu arbitraire de curseur un peu arbitraire dont les préfets pouvaient actionner comme bon leur semblait pour dire bon bah là non, on va pas, vous allez plutôt passer par là ou on vous interdit de manifester ce jour-là ou quoi. Ce curseur c'est largement agrandi ou renforcé et maintenant on va quémander en gros un parcours et si on a de la chance la préfecture va peut-être l'accepter. Bon, on espère quand même qu'à force de comprimer les ras-le-bols et les énervements de tout le monde finiront par s'exprimer dans de joyeuses manifestations sauvages, qu'on ne demandera plus l'autorisation à ces préfectures qui de toute façon ne veulent plus qu'on manifeste. Et puis finalement cet hôtel Dieu, il pourrait tous aussi bien se refaire sa façade façon huile de vilange une nuit, alors que bon, ils pourraient être dépourvus de protection.
Et il n'y a pas que à Lyon que le préfet se lâche, il y a aussi à Lille, la CGT a déposé hier un recours contre le parcours de la manifestation régionale qui avait été fixé par la préfecture. Alors théoriquement c'est le résultat d'une négociation entre les gens qui organisent la manifestation et la préfecture. Dans la pratique, comme de toute façon la préfecture peut dire oui ou non, c'est-à-dire qu'elle peut aussi dire non à tous les trajets qui ne sont pas celui qu'elle a décidé à l'avance, donc à la fin c'est quand même la préfecture qui peut dicter son trajet. La CGT a donc déposé un recours. L'audience s'est tenue ce matin en urgence au tribunal administratif et c'est au moment où la manif a commencé cet après-midi que les manifestants ont appris que le tribunal rejetait leur demande. Le parcours a donc évité à Lille le centre-ville, conformément à ce que voulait la préfecture. Et à Dijon, c'est plus intéressant et plus ce qui s'est passé, c'est que l'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires, c'est-à-dire pas principalement des violents anarchistes, cette intersyndicale a publié hier une lettre ouverte au préfet. Suite, disent-ils, aux incidents survenus lors de la manifestation du 24 janvier. Et donc cette lettre commence comme ça: une nouvelle fois, nous avons eu à subir les procédés inadmissibles de vos services, ils veulent bien dire des flics, en fin de manifestation ce vendredi 24 janvier. Et leur lettre commence par des choses qui peuvent paraître plus anecdotiques, c'est que les flics qui sont censés protéger la manif, là on sait pas pourquoi, laisser passer des bagnoles de gens quoi qui circulaient, et ils les ont laissé passer jusqu'à la manif, ce qui a l'air effectivement à la fois pas malin, à la fois... mais bon... Et puis il continue en expliquant que de même, alors qu'un des véhicules des organisations syndicales était toujours positionné sur la place Wilson, bon, l'équivalent dijonnais de la place Bellecour, vos services, donc les flics, ont procédé à des tirs de gaz lacrymogène dès 16h45, malgré l'intervention de responsables syndicaux les informant que la manifestation n'était pas terminée. Donc voilà, eux ils avaient l'habitude, ou en tout cas ils pensaient pouvoir compter sur une sorte de collaboration honnête entre les services un peu d'ordre de la manif et les flics. Bon, en fait, ça marche plus du tout. Les auteurs de la lettre parlent donc d'une intention manifeste de provoquer l'incident, voire de faire cesser au plus vite l'expression légitime de la contestation démocratique. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe à Dijon, c'est la même chose qui se passe à Lyon. Hein. C'est le moment où la manif arrive à son endroit final, mais où il y a une partie des gens qui y sont pas encore, où la queue de la manif est pas encore là, les flics commencent directement à gazer la place pour faire dégager les gens, de manière à ce que vraiment la manif se termine pas, quoi. Et surtout que les gens ne traînent pas, et j'imagine que ça fasse pas cette impression de masse que ça peut faire quand toute la manif arrive pas à rentrer sur la place. Et donc voilà, les auteurs de l'intersyndicale explique que ces tirs de gaz ont atteint un véhicule de pompiers qui circulait là, que d'autres véhicules en stationnement aussi, et plus grave, disent-ils, des enfants étaient présents alors qu'ils sortaient de l'école. On parle bien de 16h45. La lettre conclut sur: nous nous interrogeons sur le sens de nos déclarations de manifestation en préfecture. En effet, nous nous sommes régulièrement pliés aux exigences des services de la préfecture, des services de sécurité, qui ont à de nombreuses reprises modifié nos parcours. Donc c'est le truc dont on parlait. étant donné le traitement subi par les manifestants et manifestantes le 24 janvier, qui s'apparentait à celui infligé à une manifestation non déclarée, nous nous demandons vraiment s'il est encore utile de déclarer les manifestations. Ainsi, nous aussi, nous exigeons de vraies explications et surtout que les actions constatées inopportunes de vos services le 24 janvier, donc c'est la semaine dernière, fassent l'objet des mises au point nécessaires. Et si nous continuons à déclarer nos parcours, parcours dont les organisations mesurent en pleine responsabilité la sensibilité au vu de la conflictualité sociale dont est responsable ce gouvernement, ce sera à condition que ces parcours ne soient plus déviés. Alors, le préfet de Côte d'Or, bon, cette lettre a quand même été vraiment publiée, donc le préfet de Côte d'Or s'est un peu senti obligé de faire une réponse. Et donc, il a pondu son texte qu'il a donné aux journaux. Bon, il faut dire que le texte en question, alors c'est une sorte de concentré de langue de bois sur blablabla, l'état de droit, blablabla, la loi, blablabla, blablabla. Des affirmations pas hyper crédibles. C'est-à-dire que quand on a participé à une ou deux manifs, on reconnaît quand même aussi ce qui est vraisemblable et pas vraisemblable. Et là, le préfet, lui, est complètement persuadé qu'il n'y avait aucun enfant dans le coin. Alors, en l'occurrence, comme sa lettre a été publiée dans le torchon local dijonnais qui s'appelle Le Bien Public, vous voyez, c'est l'équivalent du Progrès par là-bas. Autant dire que son lectorat est pas massivement, va pas massivement aux manifestations. Et que donc l'article est suivi par un forum sur lequel parfois mes yeux se laissent entraîner avant que j'ai le temps de me dire « Ah mon Dieu, quelle horreur !»
Ah oui, bah ça pique.
Et c'est, ouais, généralement c'est moche. Mais là, ça m'a permis d'arriver à ce truc où du coup le préfet, lui, explique que ses services n'ont pas du tout mentionné le fait qu'il y avait des enfants. Mais là, un lecteur qui par ailleurs est anti-grève, anti-blocage, anti-manif, anti-tout, c'est-à-dire vraiment, lui il dit « Bon, quand même les gamins, c'est vrai, désolé, mais ils étaient là quoi, il n'y a aucun doute là-dessus. » Et c'est vrai qu'ils ont quand même été flippés et choqués. C'est lui qui le dit, pour le coup, c'est pas un syndicaliste. Le préfet continue par un rappel à la loi qui lui donne donc maintenant à peu près tous les droits, hein, ce que tu viens de dire, pour garantir l'ordre public, dont le droit de décider le parcours des manifs. Et ben voilà, alors les syndicats, la prochaine manif, on fait quoi ?
Et par exemple, le préfet de Lyon, lui, a quand même, alors lui, je sais pas si c'était par communiqué officiel ou en tout cas par compte Twitter, mais il a tweeté que non mais bien sûr, il fallait juste que les organisations syndicales ramènent un peu d'ordre dans les cortèges et que en tout cas cette interdiction, bien sûr, n'était pas définitive, mais que si ça continue à bien se passer, peut-être que en tant que gentil professeur, il lèverait cette interdiction.
Mais en fait, le préfet, en ça, ne fait que suivre un certain nombre de ministres ou de gens de différents bouts de l'État qui régulièrement expliquent aux syndicats ce qu'ils devraient faire pour faire les choses correctement. À chaque fois, ce qu'ils devraient faire, c'est en gros rendre les manifestations invisibles, voire si possible inexistantes, voire plutôt aller au boulot que d'aller manifester.
Et arrêter la grève, parce que c'est pas responsable.
Arrêter la grève, ce serait encore le mieux. Et à cette condition, effectivement, il n'y aurait pas de souci pour maintenir la liberté de manifester, à condition que personne ne s'en serve.
Canu Info.
Et on va s'écouter un petit reportage.
Excusez-moi, on va où là ?
Là, on va dans une petite salle où est organisée une réunion publique de l'REM sur la réforme du bac.
On va y participer ?
Alors, je sais pas, parce qu'en arrivant en groupe, comme ça, je pense qu'on va vite se faire griller. Et vu que l'accès est quand même fermé, qu'il faut... Mais on est plusieurs à avoir donné soit des faux noms, soit des noms pour y participer, donc on s'est inscrit. Donc, en théorie, on est plusieurs à avoir notre place réservée, donc on va voir ce que ça donne.
Bah, je pense qu'on va annuler notre...
Oh, oh,
tu peux bien dire un mot sur la réforme Blanquer ?
Sur la réforme Blanquer,
enfin, je pense, hein.
Qui désorganise donc complètement nos enseignements, les a déjà tronçonnés avec les programmes, qui sont eux-mêmes assez stupides et nous empêchent de faire des apprentissages sur le long terme, de développer des méthodes sur le long terme, un esprit critique, et notamment avec ces épreuves qui arrivent très tôt pour les élèves de première.
Les E3C, nous,
ouais.
Nous on les passe, on est en première. Du coup, on vient de les avoir. Nous, à Saint-Ex, on les a passés la semaine dernière.
et on les a encore en avril en fait. Donc voilà, on est en plein dedans nous, donc on sait même pas à quoi s'attendre. Enfin, les épreuves sont différentes pour tout le monde, enfin, c'est hyper flou et voilà. Donc en fait là on est censé continuer le programme et avoir des E3C du nouveau programme du coup en avril, enfin c'est n'importe quoi. Et juste même les profs sont même pas au courant et... Ils essayent de faire au mieux, mais ils sont carrément contre aussi. Enfin, la majorité, en tout cas, à Saint-Ex. Et donc, pour moi, c'est juste mettre la pression aux élèves à partir juste de la première jusqu'en terminale. Il n'y a même pas le goût d'étudier ou quoi que ce soit, puisqu'on sera juste dans l'esprit du bac. Mais juste, ça fout trop la pression.
Alors, en fait, c'est la disparition du caractère national du bac, avec une grosse, grosse injection de contrôle continu qui va localiser les bacs et donc, du coup, créer des bacs locaux donc en fonction de l'établissement où tu vas le passer. Ton bac n'aura évidemment pas la même valeur puisque dans Parcoursup après, vu qu'il y a une sélection maintenant dans le supérieur, eh bien, en fonction d'où tu viens, tu n'auras pas forcément accès aux mêmes formations.
Pour manger de la galette, parce qu'il paraît que LRM paye sa galette.
Et vous allez aller sur la table pour choisir les rois et les reines.
Je pense que le but, c'est un peu de renverser la table quand même, mais on va voir. Et puis de pas les laisser tranquilles surtout. Se dire que quoi qu'ils fassent, il y aura toujours des gens pour leur rappeler qu'ils sont en train de détruire les services publics.
En gros, c'est une action qui a déjà eu lieu sur Lyon. Il y a deux semaines, la République En Marche s'était rejoint dans un bar dans le premier arrondissement. Il y avait déjà eu 30 personnes qui étaient rentrées dans le bar pour chanter pendant une demi-heure. On n'avait pas pu accéder à l'étage où la réunion se tenait. On avait demandé aux macronistes de descendre pour discuter avec nous. Ils s'étaient cachés dans un coin, ils avaient appelé la police. Et là, c'est reproduit ce soir. Et là, c'est encore plus nombreux. Là, on doit être 80, 90. Donc ça montre la détermination de ouf des gens.
On va être obligé de fermer la salle.
Parce que, en 86, c'était la première fois que j'étais interviewé par Radio Canu et là c'est la deuxième fois. Mais à l'époque j'étais allé dans les locaux pour expliquer la réforme de Vaquet à l'époque. C'était une réforme qui amenait à beaucoup plus de sélection dans les universités et ça avait déclenché un mouvement étudiant très fort. Bon là on avait gagné au moins. On avait gagné de l'avoir tiré sans sa réforme.
Super cette action, j'ai adoré.
T'as mangé de la galette?
Non, par contre, j'ai bu un peu de champagne. Il était vraiment très bon.
Moi, j'ai la galette et on n'a pas eu le droit. Voilà.
Et la galette. Est-ce que on a eu le droit à la galette quand même. Alors, retour à Lyon. Enfin non, continuons d'être à Lyon, c'est des infos très locales. Et la ville de Lyon souhaite voir disparaître les kebabs de la place du Pont ainsi que les magasins de téléphonie. Place du Pont, autrement appelée Place Gabriel Péri. Alors bon, c'est pas la première fois, hein, elle souhaite voir disparaître les kebabs, les magasins de téléphonie, voir la place Gabriel Péri dans son ensemble au final.
Oui, puisqu'on trouve dans le livre de Azouz Begag sur la place du Pont, on trouve cette lettre qui date du 18e siècle où l'équivalent d'un, je sais pas quoi, d'un petit pouvoir local écrit à un plus grand pouvoir local pour se plaindre du fait que la place du Pont est un repère de gangsters, de prostituées, de pauvres qui ont un marché illégal et de choses comme ça. Ça date du 18e siècle et depuis il y en a tellement eu tout le temps que c'en est incroyable.
C'est ça, donc j'ai écrit pour la 350e fois à peu près, donc j'imagine que si on parle du 18e siècle, on n'est pas loin. Alors bon, soyons pas naïfs non plus, c'est vrai que petit à petit, ce quartier de la Guillotière se fait grignoter et que beaucoup souhaitent le transformer pour le rendre plus choisissez, cossu, propre, sécurisé, etc. etc. Bon, un paquet de fois, ils se sont lamentablement plantés, que ce soit il y a quelques années en occupant la place pour par une pyramide de chaises dont ma mémoire ne se souvient plus très bien si elle avait fini par être enflammée ou pas, ou par une occupation du trottoir, route et place par les flics. En enlevant tout ce qui pourrait ressembler à une marche ou un banc et en les transformant en une pente inclinée, en espérant par je ne sais pas quelle opération que plus personne ne pose ses fesses dessus.
Il y a eu un moment où ils ont mis des bacs à fleurs avec des plantes piquantes pour pas que les gens s'y adossent.
C'est vrai. Ils ont aussi qu'est-ce qu'ils ont mis? Un moment, ils ont mis des grilles de chantier aussi. Il n'y avait pas de chantier.
Ils ont organisé des faux chantiers.
Ouais, du coup. Bon, en tout cas, il n'y a qu'à passer hein, aux heures de marché sauvage pour voir qui n'est pas référencé hein, sur le site de la ville, ne cherchez pas, pour voir qu'heureusement, ils n'ont pas de prise là-dessus ou très peu. Alors, cette fois-ci, leur angle d'attaque, leur moyen législatif pour y arriver, c'est de préempter les commerces en vente, enfin les commerces en pied d'immeuble sur un périmètre défini, donc qui serait la place Gabriel-Péry ou... Bon, bref, ce serait... Voilà.
Et un petit bout du cours Gambetta, peut-être.
Oui, j'imagine qu'au début du cours Gambetta, bref. Et de décider un peu d'eux-mêmes ce qu'ils voudraient mettre à la place. Alors, sans nul doute, hein, ce serait des commerces éthiques et responsables, on imagine plutôt bien. Bon, alors ça, ils l'ont déjà fait, rue Montebello. La rue Montebello, c'est une toute petite rue parallèle au cours Gambetta qui relie le cours de la Liberté au quai du Rhône. Donc vraiment dans le quartier, on peut plutôt dire que c'est un échec hein, parce que du coup dans cette volonté ils voulaient un peu rénover, éclaircir cette rue et ben quand on s'y promène on voit toujours autant de snack tandoori, réparateurs de téléphone, tout ça. Bref, en tout cas tout ça sont plutôt mauvais les élections municipales parce que entre ça et les opérations de police massive pas plus tard que tout à l'heure 17h45 en venant à la radio c'était café de flics, plein de voitures qui barraient la route, qui contrôlaient dans tous les sens. Il faut flatter les électeurs électrices du groupuscule La Guillotière en colère qui n'a fait rien d'autre que copier l'autre groupuscule La Presqu'île en colère. Vous savez, qui râlait contre les gens qui mettaient qui klaxonnaient, qui écoutaient la musique fort le week-end. Et ça, pour les riverains et riveraines de la presqu'île, ils sont pas contents. Et ben voilà, le concept de mécontentement s'est exporté à la Guillotière. Bon, de toute façon, quand même, cette place, historiquement, connaît des espèces de saisons sécuritaires. Alors on a soit les élections municipales ou voilà, en tout cas les élections municipales, soit la période estivale. La période estivale en général à chaque été, par exemple c'est la pyramide de chaises dont je parlais un peu plus tôt là, c'était l'été. Et souvent pareil, c'est l'histoire de bac à fleurs. Enfin bref, tout ça c'est un peu l'été.
La pyramide de chaises, s'il y a des gens qui s'en rappellent pas du tout, c'était une œuvre d'art.
Ah oui.
Une œuvre d'art faite par une artiste contemporaine. Qui plus est avec un nom africain, ce qui fait que c'était vraiment, il fallait pas croire que c'était un truc raciste par exemple. C'était vraiment pas ça la question. Et du coup voilà, c'était juste des chaises entassées, mais quand même c'était très 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 volumineux, entassées et soudées entre elles.
Et voilà. Et du coup, en tout cas, voilà, à chaque fois sur ces périodes estivales, la mairie met le paquet. En gros, hein, les gens quand même autour de ça continuent de se débrouiller et le reste du temps se débrouille largement pour continuer à faire un peu exister cette place. Ouh, et ben c'est 19h pile.
Non, 19h30 pile.
19h30 pile, ah ouais, ça. Et c'est quand même l'heure de la fin de ce Canu Info.
Ouais, vous avez été content, non? C'était des bonnes infos.
Bah, c'était des bonnes infos. Écoutez, on peut pas être de partout. Manif, préparation des infos, tout ça. On espère que les autres manifs auront lieu un autre jour de la semaine pour vous donner un peu plus d'infos. En attendant, vous pourrez écouter les autres Canu Info de la semaine. Vous écouterez sûrement Idées Noires, l'émission de l'UCL. En attendant, on vous laisse avec 30 minutes. Demande continue.
Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour certainement plusieurs dizaines de minutes d'infos, encore une fois.
Allez, merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
La plus rebelle des radios.